Merci Steve. J'allais dire content d'être avec vous, mais je ne suis pas vraiment avec vous. Peut-être que je suis avec vous, mais vous n'êtes pas avec moi. Je suis dans votre salon ou dans votre chambre ou je ne sais pas où. Mais content quand même de pouvoir partager ce moment ensemble et j'essaie de me convaincre qu'il y a des personnes derrière cette caméra. Et donc je me réjouis de vous voir après pour ce petit temps de Zoom ensemble. Et donc je vous invite à garder ouvert sous vos yeux le passage de 2 Corinthiens 6 que Muriel a lu. Et on va regarder ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce passage jusqu'au verset 1 du chapitre 7. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que dans la vie, il y a des nouvelles qui ne changent pas grand-chose dans notre comportement, dans notre manière de vivre, n'est-ce pas? Par exemple, si vous apprenez que votre équipe de sport favorite a remporté la victoire, vous allez être content, mais ça ne va pas forcément changer votre comportement, ça ne va pas forcément impacter votre manière de vivre. Mais en revanche, il y a des nouvelles qui, quand on les reçoit, impactent notre comportement, changent notre manière de vivre. Par exemple, quand le gouvernement belge annonce qu'on doit tous être en confinement, quand on reçoit cette nouvelle, ça change notre comportement. Du jour au lendemain, ça change notre manière de vivre. Il y a des nouvelles qui impactent notre comportement. Et c'est un peu la même chose avec la grâce de Dieu, comme Paul le montre dans les versets qu'on va voir ensemble. Cette grâce change notre comportement. On a parlé de la grâce de Dieu dimanche dernier dans 2 Corinthiens 5 avec le message de la réconciliation. La nouvelle merveilleuse que nous, les êtres humains, on peut être en bonne relation, réconciliés avec le Dieu de l'univers. On peut être pardonné de nos péchés et couvert de la justice de Christ. Cette grâce, elle est merveilleuse et elle ne laisse pas indifférent, comme on l'avait vu dans le chapitre 5, le verset 15. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et c'est pour ça, à la lumière de tout ça, que Paul dit ce qu'il dit au verset 1 du chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Il encourage ses Corinthiens à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat, en vain. L'encouragement de Paul dans ces versets, ce n'est pas d'accueillir la grâce, parce que ces Corinthiens l'ont déjà fait, ils ont déjà accueilli la grâce de Dieu. Ils sont chrétiens, ils ne rejettent pas la grâce de Dieu, ils ne la mettent pas de côté. Mais l'encouragement de Paul, c'est de ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. C'est-à-dire la recevoir sans qu'elle ait de profit dans leur vie, sans qu'elle atteigne son objectif. Et c'est d'autant plus le cas que la grâce nous change parce qu'aujourd'hui, nous croyants de la nouvelle alliance, on est dans une nouvelle époque. Et c'est ce que Paul montre avec le verset 2. Il dit, en effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut de cette nouvelle époque de la réconciliation, c'est maintenant. Parce que Jésus est venu accomplir les promesses dont l'Ancien Testament est rempli. Et donc Paul dit, vivez à la lumière de cette nouvelle époque dans laquelle vous êtes. Mais pourquoi est-ce que Paul dit ça ici? Pourquoi est-ce qu'il commence ce chapitre en disant ceci aux Corinthiens? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour eux dans leur contexte de ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain, sans résultat? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, je pense que la suite du passage nous aide à répondre à cette question. Paul va montrer à quoi ressemble le service chrétien véritable et à quoi ressemble la sainteté chrétienne véritable, en montrant que dans ces deux domaines, les Corinthiens ont dû... Est-ce que c'est à son apparence? Il est bien habillé, il dégage beaucoup de charisme, il fait très sérieux. Est-ce que c'est à sa puissance? Il fait des miracles, il fait des choses qui sortent de l'ordinaire, il a l'air d'avoir une puissance de persuasion, il a des milliers d'abonnés sur YouTube, des milliers de likes sur Instagram, il a l'air très puissant. À quoi est-ce qu'on reconnaît un serviteur de Dieu? Bah dans ces versets, Paul met en avant la marque de fabrique du vrai service chrétien, de ce qui fait un serviteur de Dieu. Dans ces versets, Paul est toujours en train de défendre son ministère d'apôtre, de montrer aux Corinthiens ce qu'est un ministère chrétien authentique, véritable. On l'a déjà vu ensemble dans cette série de prédications plusieurs fois, mais les Corinthiens, ils étaient tentés de suivre des faux enseignants, des gens que Paul appelle les super apôtres. Ils ont l'air beaucoup plus impressionnants d'un point de vue humain, ils frappent les yeux, mais le message qu'ils annoncent sonne creux. Et le but de Paul dans ces versets, c'est de ramener les Corinthiens dans le droit chemin, de ramener les Corinthiens vers lui. Et en fait, on voit ça dans le chapitre 6. les versets 11 à 13, qui sonnent très, ils ont un aspect très personnel, où Paul écrit aux Corinthiens: Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens, nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Donc Paul veut ramener les Corinthiens vers lui parce qu'il est un serviteur de Christ authentique et que les autres super apôtres ne le sont pas. Mais alors, quelle est la preuve que c'est le cas? Quelle est la preuve que Paul est un véritable serviteur de Dieu? Ben, Paul va montrer ça dans les versets 3 à 10 de notre chapitre 6, en montrant la marque de fabrique du service chrétien. Et voir ça, ça va nous aider non seulement, comme les Corinthiens, à pouvoir discerner qui est un véritable serviteur de Dieu et qui ne l'est pas, mais aussi à savoir à quoi ressemble le service chrétien, et donc à voir ce que ça implique pour mon service, mon implication dans l'Église. On voit trois choses dans ces versets par rapport au service chrétien. D'abord, que le service chrétien est sans reproche. Un obstacle afin que notre service soit sans reproche. Donc il ne veut pas être un obstacle pour quelqu'un. Il veut être sans reproche. Ça ne veut pas dire qu'il cherche à plaire à tout le monde ou qu'il s'adapte en fonction de ce que les gens disent de lui. Mais plutôt ce que Paul met en avant ici, c'est qu'il veut être irréprochable dans son enseignement, dans sa conduite, pour qu'il n'y ait aucun obstacle qui vienne de lui-même. Parce que c'est pas parce que sa réputation comptait à ses yeux, mais parce que les progrès de l'Évangile comptait à ses yeux. Il voulait que rien n'empêche les gens d'entendre le message de la réconciliation qu'il proclamait, qu'on puisse rien reprocher à son ministère. Et c'est comme s'il disait aux Corinthiens, mais vous n'avez rien à nous reprocher, on s'est conduit avec pureté envers vous, donc pourquoi est-ce que vous nous rejetez? Paul a agi de la bonne manière et son service était sans reproche. Et donc ce que Paul nous montre ici, c'est que dans le service chrétien, notre comportement peut discréditer nos paroles. Le service chrétien est calomnié quand on ne se conduit pas de la bonne manière. Bien évidemment, le message qu'on annonce est crucial et on doit faire aucun compromis là-dessus. On n'annonce pas l'évangile avec des actes, mais avec des paroles qui sortent de notre bouche. Mais en même temps, si notre manière de vivre n'est pas cohérente avec le message que nous proclamons, alors on est en train d'enlever toute crédibilité à ce qu'on proclame. Il y a un commentateur qui écrivait ceci par rapport à ce verset. C'est toujours vrai que la vie du chrétien et la publicité la plus éloquente pour l'Évangile. Attention, la vie du chrétien n'est pas l'Évangile, on n'explique pas l'Évangile en vivant, mais en parlant. Mais notre manière de vivre pointe ou non vers le message qui peut sauver l'Évangile. Et malheureusement, trop souvent, la foi chrétienne a été pointée du doigt en raison du comportement de ceux qui la professaient. Je lisais cette semaine une citation de Gandhi qui aurait dit ceci par rapport au christianisme: J'aime votre Christ, mais je n'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens sont si différents de votre Christ. C'est triste si ce qui empêche les gens de s'intéresser à la foi chrétienne, c'est le comportement de tel ou tel responsable chrétien, ou l'attitude de tel ou tel chrétien. Et donc si on parle de nos amis, à nos amis de l'Évangile, de la réalité du péché, de notre rébellion, du privilège d'être pardonné grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, si on leur dit ces choses, mais qu'ensuite ils nous voient au supermarché nous battre pour le dernier paquet de pâtes, c'est comme si on était en train de leur dire, mais tout ce que je dis, ça vaut rien, c'est faux, ce n'était pas vrai. Le service chrétien véritable est sans reproche. Ça ne veut pas dire qu'on pêche plus, qu'on ne fait pas d'erreur, qu'on ne se trompe pas, mais on peut être sans reproche et on peut avoir un cœur sincère qui désire l'être. Deuxièmement, ce qu'on voit dans ces versets, c'est que le service chrétien est coûteux, surtout dans les versets 4 à 10. Le service chrétien est coûteux parce qu'on voit que Paul est prêt à tout souffrir pour que son message soit entendu. Après avoir dit ce qu'il ne voulait pas faire au verset 3, maintenant il nous dit ce qu'il veut faire au verset 4. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu. Ça ne veut pas dire que Paul voulait se mettre en avant en disant, voilà, regardez combien je suis un serviteur de Dieu magnifique, combien je suis quelqu'un de bien, mais plutôt qu'il montre ce qui est la preuve qu'il est un véritable serviteur de Dieu. Son CV d'apôtre, en quelque sorte, on pourrait dire, ce qui caractérise un ministre de Christ authentique et donc ce qui prouve que lui, il est un ministre de Christ authentique. Et qu'est-ce que c'est, cette preuve, selon ces versets? Versets 4 et 5, c'est le fait qu'il ait vécu les souffrances, les détresses, les angoisses, les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil, et de nourriture, les épreuves qu'il a traversées. Voilà la preuve qu'il est un serviteur de Dieu authentique, qu'il n'est pas un faux apôtre. Et non seulement ça, mais aussi les qualités morales qu'il développe. Dans les versets 6 et 7, nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Et il liste encore dans la suite beaucoup d'autres choses liées au coût du ministère, de la douleur qu'il vit. Et voilà son CV d'apôtre. Voilà la preuve qu'il est un serviteur de Dieu véritable. Et ça nous amène à avoir les bons critères pour discerner ce que l'on doit chercher chez un leader chrétien, chez un responsable. On pense souvent que gagner en responsabilité, c'est gagner en confort. Être davantage apprécié, avoir davantage de pouvoir, de force de persuasion, être montré à l'écran, avoir son nom sur un livre, être mis en avant. Et peut-être qu'en tant que chrétien, on peut jalouser les gens qui ont réussi en quelque sorte selon nos critères humains à nos yeux. Mais Paul nous montre ici que gagner en responsabilité, c'est gagner en capacité à souffrir. Gagner en capacité à souffrir, en capacité à s'abaisser devant les autres. Il n'est pas question d'un jeu de pouvoir. Paul renverse les critères ici. Il est au plus bas du plus bas. Être un serviteur de Christ, c'est être prêt à subir les angoisses, les privations de sommeil, les détresses, les calomnies, les mauvais jugements, la mauvaise réputation. Et alors ça nous amène à vouloir prier pour nos responsables dans le monde chrétien, dans cette église, pour que l'on maintienne cette attitude face au ministère. Qu'on ne tombe pas dans un jeu de pouvoir où on serait le plus confortable possible, mais qu'au contraire, on soit prêt à souffrir, à être mis de côté, à être piétiné même presque comme Paul l'a été. Mais aussi, ça nous met au défi chacun de nous pour le service qu'on accomplit pour le Seigneur. C'est comme si ce texte nous disait, vous voulez servir le Seigneur, mais est-ce que vous êtes prêt à souffrir? Est-ce que vous êtes prêt à payer le coût lié à ce service? Soyez prévenus, c'est difficile, ça va vous coûter cher, parce que c'est ce qui caractérise un serviteur de Dieu authentique. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Ou est-ce que nous servons seulement quand ça nous arrange, quand ça ne nous coûte pas trop, avec les miettes de notre temps? Ou alors est-ce que nous sommes seulement prêts à servir comme nous, ça nous arrange la manière dont on voit les choses, et si les choses ne sont pas faites comme moi je voulais, alors je jette l'éponge, j'abandonne. Non, le service chrétien est coûteux. J'ai entendu il y a quelque temps une illustration qui, je trouve, illustre bien ça, qui vient de Philippe Moore, un pasteur en région parisienne, qui parlait du petit-déj, je ne sais pas de quel pays ça vient, d'Irlande du Nord, lui disait, mais peut-être d'Angleterre ou d'ailleurs, d'Angleterre, Steve me dit, mais les œufs au bacon, c'est ça le petit-déj, et c'est un petit-déj magnifique qu'on se plaît à manger. Mais il disait que ça nous illustrait cela parce qu'il y a deux animaux qui sont impliqués pour faire ce petit-déj. Il y a la poule et puis il y a le cochon. On a besoin des deux animaux, et ils sont tous les deux impliqués dans la confection du petit-déjeuner, mais ils ne sont pas impliqués de la même manière. La poule est concernée et le cochon est engagé. La poule est concernée parce qu'elle donne simplement un ou deux œufs, voilà, de côté, ce qui lui coûte pas trop. Mais le cochon est engagé parce qu'il laisse sa peau. Ça lui coûte la vie. Il est engagé. Est-ce que vous êtes concerné par le service chrétien ou est-ce que vous êtes engagé dans le service chrétien? Le service chrétien est coûteux et c'est ce que Paul veut nous faire comprendre dans ces versets. Mais avant de passer à la suite, on doit aussi dire, et c'est réjouissant, que le service chrétien, tout en étant coûteux, vaut la peine. Le service chrétien vaut la peine. On voit ça avec les paradoxes qui sont énoncés dans les versets 9 et 10. Et regardez avec moi le verset 10, où Paul dit, nous sommes comme étant attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux. Nous sommes comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup. Nous sommes comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. On voit des paradoxes ici qui montrent que le ministère chrétien vaut la peine. Paul est attristé, et on le comprend, en raison de toutes les épreuves qu'il vit. Et pourtant, il est toujours joyeux. Il sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Il sait qu'il est en train d'accomplir un ministère glorieux. Paul est pauvre physiquement, et pourtant, il en enrichit beaucoup. C'est-à-dire qu'il permet à beaucoup de personnes de trouver la vraie richesse, ce qui est le plus précieux, la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Il souffre, mais ça vaut la peine. Paul n'a rien, il n'a pas de trésor sur cette terre, et pourtant il peut dire qu'il a tout. Il a une relation privilégiée avec le Dieu de l'univers, il a l'assurance de son salut, la certitude d'être accepté par Dieu, un héritage glorieux qui l'attend. C'est bien mieux que tout ce qu'il pourrait avoir sur cette terre. Et en passant, on voit là la foi de Paul qui peut dire qu'il a tout alors qu'il a rien. Le tout dont il parle, ce n'est pas un tout matériel, mais spirituel, de ses richesses qu'il a en Christ. Mais sa foi est un exemple pour nous. Peut-être encore plus si on traverse cette crise et que On est privé de notre gagne-pain. Est-ce qu'on est prêt à dire comme Paul que nous avons tout en Christ, bien plus important que tout ce qu'on pourrait avoir sur terre? Paul et nous, chrétiens, souffrons lorsqu'on accomplit le ministère, mais on peut aussi être attristé, mais joyeux, pauvre, mais beaucoup, comme n'ayant rien et pourtant possédant tout en Jésus. Le service chrétien vaut la peine. Ça, c'est le premier élément, la marque de fabrique du service chrétien. Ensuite, dans ce texte, on voit la marque de fabrique de la sainteté chrétienne, à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 7, verset 1, la marque de fabrique de la sainteté chrétienne. Et peut-être que le changement de sujet ici peut nous paraître un peu brut, brusque, mais on va voir maintenant que ça colle avec ce qu'on a déjà vu. Paul a déjà parlé d'avoir un ministère qui serait sans reproche, qui serait marqué par la sainteté. Et il est toujours dans cet appel d'encourager les Corinthiens à ouvrir leur cœur à Paul. Et une manière de faire ça pour les Corinthiens, d'ouvrir leur cœur à Paul, c'est d'embrasser l'accent que Paul met ici sur la sainteté. Je ne sais pas à quoi vous fait penser le mot sainteté. Est-ce que c'est à une personne qui marche dans la rue avec une auréole sur la tête? Est-ce que c'est avec un moine isolé dans un monastère qui se prive de toutes sortes de choses? Le mot sainteté a beaucoup de connotations dans nos esprits, dans nos têtes. Mais ces versets nous montrent la marque de fabrique de la sainteté chrétienne. On voit dans ces versets pourquoi elle est importante, à quoi elle ressemble et ce qui motive la sainteté. On va voir ça ensemble. D'abord, pourquoi la sainteté? Le pourquoi de cette sainteté, c'est ce que nous sommes. Nous sommes, nous, l'Église, le temple de Dieu. Et on voit ça avec la fin du verset 16, où il est dit: En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, Paul écrit aux Corinthiens. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le temple de Dieu dans l'Ancien Testament évoque la présence de Dieu, là où Dieu était présent de manière particulière et entière au milieu de son peuple. Dieu avait promis d'habiter au milieu de son peuple, du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. La condition, c'était simplement que le peuple soit obéissant. Si tu m'obéis, alors je serai ton Dieu. Et tu seras mon peuple. Mais on connaît l'histoire, on sait que Israël n'a pas obéi, n'a pas été obéissant. Et donc Dieu a fait de nouvelles promesses qui sont citées dans ce passage de 2 Corinthiens 6, dans Ézéchiel, Ésaïe, des promesses à propos d'une nouvelle époque, d'une nouvelle alliance, où Dieu habiterait pleinement au sein de son peuple, où Dieu sera leur Dieu de manière pleine et entière, et où ils seront son peuple de manière pleine et entière. Et c'est dans cette époque que nous sommes, si nous avons placé notre confiance en Jésus. Dieu n'a pas attendu qu'on obéisse parfaitement pour venir jusqu'à nous. Sinon, il aurait pu attendre longtemps, ça ne serait jamais arrivé. Mais il a envoyé son Fils Jésus pour vivre cette vie parfaite à notre place, pour mériter le salut à notre place, pour mourir sur la croix, pour verser son sang pour nos péchés. Et donc, en croyant à Jésus, Dieu est notre Dieu et nous sommes son peuple. Voilà pourquoi nous, l'Église, sommes le temple de Dieu. Et puisque nous sommes le temple de Dieu, nous devons être saints, nous devons être à part, c'est ce qu'on voit avec le verset 17. Il est dit, c'est pourquoi, à la lumière du verset 16, qu'on est le temple de Dieu, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà le pourquoi de la sainteté. À quoi ressemble cette sainteté? On voit ça surtout avec le verset 14. À quoi ressemble la sainteté? Le verset 14 nous encourage à ne pas former un attelage disparate, avec des incroyants. Ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours dans les conversations, ça, attelage disparate. On pourrait le traduire en disant ne vous mettez pas sous un joug étranger. C'est une image qui fait référence à l'agriculture. L'attelage, c'est ce qui fait que deux bœufs sont ensemble pour tirer une charrue dans les champs. Et le joug, c'est ce qui va tenir les bœufs ensemble. Et dans l'Ancien Testament, c'était interdit de labourer un champ avec un bœuf et un âne qui étaient attelés ensemble. C'est ça, un attelage qui est disparate. Et ça se comprend que ça ne soit pas une bonne chose, que ça aurait aucun sens de faire ça. Parce que l'un est beaucoup plus fort que l'autre. Ils n'ont rien à voir ensemble, ils ne vont pas dans la même direction, ils ne vont pas faire le même travail. L'un va entraîner l'autre et ça ne marchera pas, on ne pourra pas accomplir ce qu'on veut accomplir. Et Paul compare ceci, l'attelage disparate qu'il pourrait y avoir entre un bœuf, un âne ou deux autres animaux, à l'association étroite qu'il pourrait y avoir entre un croyant et un non-croyant, en disant qu'il y a les mêmes différences, en utilisant ça comme image, bien sûr. C'est ce qu'on voit dans les questions que Paul pose, où la réponse à ces questions, elle est évidente. C'est qu'il n'y a aucun lien, ce sont des choses totalement opposées. Quand on voit dans les versets 14, il demande quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Aucune. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien en commun. Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Il n'y a aucun accord. Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Il n'y a aucune part. Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Là encore, on a envie de dire, mais il n'y a aucun rapport. Parce que les chrétiens sont le temple du Dieu vivant, ils n'ont aucun rapport avec ceux qui ne le sont pas. Et dire ça nous amène à deux applications principales de ces versets dans le contexte des Corinthiens. Ne suivez pas les faux apôtres et ne suivez pas ceux qui suivent des idoles. Ne suivez pas les faux apôtres parce que ce ne sont pas des serviteurs de Christ authentiques. Ils annoncent un faux message et Paul dira plus loin que ce sont des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, tout comme Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et donc les suivre, les écouter, ce serait se mettre sous un joug étranger, associer la lumière et les ténèbres, Christ et le diable. Il ne faut pas faire ça. Imaginons qu'on remarque aujourd'hui qu'un prédicateur qu'on suit sur YouTube enseigne un faux évangile, qu'il n'est pas un vrai serviteur de Christ. Imaginons qu'on le sait, mais on est quand même tenté de continuer à l'écouter, continuer à le suivre, parce qu'il y a des choses intéressantes, ou parce qu'il parle bien, il est convaincant. Mais il ne faudrait pas faire ça. Ce serait associer Christ et le diable, ce serait se mettre sous un joug étranger. Si quelqu'un n'est pas un vrai serviteur de Christ, authentique, qui n'annonce pas le vrai message, il faut le fuir, il faut le rejeter. Mais aussi, les idoles sont bien en vue dans ce passage. Corinthe était une ville remplie d'idoles. Les gens faisaient des cultes aux idoles, les gens organisaient des repas où ils priaient les idoles. Et Paul leur dit dans ce passage, fuyez cela, n'y participez pas. Ne confondez pas la distinction qui existe, qui doit exister entre quelqu'un qui suit Christ et quelqu'un qui ne suit pas Christ. Et alors nous, on peut se demander, mais comment comprendre ce passage aujourd'hui? Est-ce que ça voudrait dire pour les Corinthiens et donc pour nous qu'il faudrait fuir tout contact avec les non-croyants et donc vivre comme on le fait aujourd'hui en confinement, mais toute l'année, à n'importe quel moment, en évitant de croiser les gens? Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Paul vient de parler au chapitre 5 de la réconciliation des êtres humains avec Dieu et que on veut, nous, être des messagers de cette réconciliation. On veut supplier ceux qui nous entourent et qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, soyez réconcilié avec Dieu. Donc on veut annoncer ce message et pour l'annoncer, on a besoin d'être en relation avec ceux qui ne connaissent pas ce message. Il n'est donc pas question ici de vivre en ermite de la société, de couper tout contact qu'on pourrait avoir avec des amis non chrétiens qui ne partagent pas notre foi. Ce serait une mauvaise compréhension de ce passage. C'est bon et c'est même important d'avoir des amis non croyants parce qu'on veut leur partager le salut qu'on a trouvé en Jésus et pour faire ça, on ne veut pas être dans une bulle chrétienne qui nous empêcherait de le faire. Mais plutôt le principe qu'il y a derrière ces versets, c'est de garder une différence nette entre l'Église et le monde. Il ne faut pas rentrer en alliance avec des non-croyants d'une manière qui nous mettrait sur le même niveau, comme si c'était pareil, comme s'il n'y avait pas de différence. Il ne faut pas se mélanger d'une manière où on ne verrait plus la différence entre un croyant et un non-croyant, parce qu'il y a une différence. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, et c'est ça la sainteté, être différent. Et nous devons reconnaître que le danger est là. J'écoutais cette semaine un podcast de Guillaume Bourin qui disait ceci: on veut trouver sa place dans le monde, mais souvent c'est le monde qui trouve sa place en nous. On veut trouver sa place dans le monde, mais souvent c'est le monde qui trouve sa place en nous. Et donc même si ce n'est pas l'application première de ce passage, je pense que ça nous remet aussi en question sur nos relations. Avec qui est-ce qu'on passe le plus de temps? Ceux avec qui on passe le plus de temps, c'est ceux qui nous influencent le plus. Et rappelons-nous qu'en tant que chrétien, on a un objectif de vie qui est radicalement différent de celui du monde. On ne va pas dans la même direction. Et ça veut dire qu'il y a peut-être certaines amitiés avec lesquelles on doit prendre de la distance. Certaines invitations qu'on ne peut pas accepter, pas par méchanceté, pas par haine, mais simplement pour ne pas s'associer avec quelque chose qui gommerait cette différence qui doit exister. Et ça implique le mariage également, même si ce n'est pas le propos principal de Paul ici. C'est une application légitime du principe qu'il y a derrière ces versets. On ne veut pas partager la relation la plus intime qui puisse exister entre deux êtres humains avec quelqu'un qui ne partage pas notre foi, quelqu'un qui ne peut pas vivre, qui ne veut pas vivre pour Jésus et qui ne veut pas s'engager dans le service chrétien dont on a parlé avant, dans lequel on veut s'engager. Ça n'aurait pas de sens d'avoir deux personnes qui vivent ensemble mais qui ne vont pas dans la même direction, deux personnes qui partagent le même programme mais qui veulent remplir ce programme avec des choses totalement opposées. Et donc ça s'adresse à nous, célibataires chrétiens, on veut se marier dans le Seigneur. Je sais qu'on n'a pas tous eu la grâce de connaître le Seigneur avant le mariage et peut-être qu'on a fait des choix de vie qu'on regrette maintenant. Paul parlera de ça ailleurs dans 1 Corinthiens 7 en particulier en disant qu'il faut rester dans la condition dans laquelle on est. Ce n'est pas quelque chose de mauvais d'être aujourd'hui dans cette condition si on a connu le Seigneur après parce qu'il y a de l'espoir à la croix. Le pardon que Jésus nous offre. Quand on croit en lui, il est réel. Et même si on doit vivre encore les conséquences de nos choix, on n'a plus à vivre la culpabilité liée à ses choix. Parce que Jésus a porté la culpabilité, le sang de Jésus a coulé pour nous pardonner de nos péchés. Et ce pardon est réel et entier. Et peut-être que si vous n'êtes pas chrétien et que vous suivez ce live, vous êtes surpris d'entendre ça. Un chrétien ne peut pas se marier avec un non-chrétien? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce n'est pas de la discrimination? Ben, si c'est votre cas, je vous encourage à vous intéresser davantage à la foi chrétienne pour voir pourquoi est-ce qu'il y a une distinction si nette que l'on voit dans ce passage. La lumière et les ténèbres, la justice et le mal. Ce n'est pas parce que les chrétiens se croient meilleurs que les autres, loin de là, les chrétiens sont conscients d'être faibles et d'être justement pécheurs et d'avoir besoin de pardon. Mais c'est parce que le cœur de la foi chrétienne parle justement du pardon des péchés qu'on trouve en Jésus seul. Le cœur de la foi chrétienne parle de vie éternelle et de mort éternelle. Et donc il y a une distinction nette entre ceux qui ont cru en Jésus et ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Les uns sont libérés de la condamnation qu'ils méritaient et les autres sont encore sous cette condamnation. Et les deux ont encore des objectifs de vie radicalement différents. Donc je vous encourage à vous intéresser à la foi chrétienne pour découvrir la vraie liberté et pour vivre la vraie sainteté. Voilà à quoi ressemble la sainteté chrétienne. Et enfin, qu'est-ce qui motive la sainteté? Qu'est-ce qui nous motive à faire cela, à vivre différemment pour conclure? Ben, en attendant ça, on pourrait penser à voilà encore un discours religieux, une obligation froide à vivre d'une certaine manière, à suivre des règles sans raison. Ou alors on pourrait penser qu'on doit vivre de cette manière simplement parce que c'est ce que les chrétiens font. C'est une règle parmi tant d'autres. Et je reconnais que c'est assez facile de penser ça, surtout si on a grandi dans une famille chrétienne, de voir la foi chrétienne comme une liste de règles sans fin qu'on doit suivre sans savoir pourquoi. Mais dans ces versets, il n'est pas question d'un appel froid à l'obéissance. Paul dit, vous êtes le temple de Dieu, et donc c'est pour ça que vous devez vivre d'une manière différente. Voilà ce que vous êtes, et voilà comment vous devez vivre à la lumière de ça. Et c'est ça qui marque la motivation à l'éthique dans la vie chrétienne, la motivation à la sainteté. Vivez selon ce que vous êtes déjà. Voilà ce que Dieu a fait pour vous, et voilà comment vous devez vivre à la lumière de ça. Et on voit ça aussi dans le verset 1 du chapitre 7, où il est dit, puisque nous avons de telles promesses, en faisant référence aux promesses qui sont juste au-dessus, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Quelles sont ces promesses dont il est parlé dans ce verset? Ben, si on regarde les versets d'avant, on voit que c'est la promesse que Dieu va nous accueillir comme un père. On est ses enfants, c'est la bonne nouvelle de l'adoption. On a parlé de ça mardi soir ensemble dans le point Théo, que par la foi en Jésus, on a le privilège d'être enfant de Dieu. Il est notre bon Père céleste et on est ses enfants bien-aimés par grâce. Et donc c'est ça qui nous motive à vivre différemment, à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain, sans résultat. Et donc ça nous amène, juste pour conclure, à contempler ce qui fait l'essence du comportement chrétien, l'essence du service chrétien. Voilà ce que Dieu a fait en Christ et vivez à la lumière de ça. Et ultimement, nous sommes motivés par la bonté de Dieu, qui nous accueille comme un père, qui a fait de nous son temple, par qui nous avons accès à un trône de grâce. Et si nous avons tout ça, c'est justement par grâce, par un cadeau immérité. Et on ne veut pas recevoir cette grâce sans résultat, en vain, mais cette grâce change notre comportement. Parce qu'on se souvient que cette grâce s'est manifestée à son apogée il y a plus de 2000 ans, sur la croix de Jésus, où Jésus a versé son sang précieux, où le Fils de Dieu est mort pour nous donner la vie. Pour que mort au péché, on puisse vivre pour la justice. Pour qu'on puisse vivre pour ce qu'il y a de meilleur. Pour qu'on puisse vivre pour ce qui est juste, pour ce qui est bon. Pour qu'on puisse vivre pour notre bon Père, la Céleste. Céleste. Donc prions ensemble, chers amis, pour terminer. Notre Dieu, merci pour le privilège de ce que tu as fait pour nous en Christ. Que nous, par la foi en Jésus, nous pouvons être tes enfants bien-aimés. Et on prie que tu nous aides à réaliser tous ces privilèges qui sont les nôtres, toutes les réalités de ce que nous sommes, le temple de Dieu, tes enfants bien-aimés, pour vivre d'une manière différente dans ce monde, même dans ce temps incertain et particulier. Et je te prie que tu nous aides à réaliser ce qui fait l'essence du service chrétien et qu'on soit prêt à s'y engager pour que beaucoup puissent connaître le message de la réconciliation que tu as mis en œuvre. Et on prie ça dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.